Locale, culturelle, indépendante, étudiante, musicale. Zaï Zaï Radio.
Zaï Zaï part en live, c'est des concerts, des interviews, mais encore plus Zaï Zaï. Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. On est en direct sur Zaï Zaï. Nous sommes en direct également sur bon nombre de radios amis en Nouvelle-Aquitaine qui sommes avec nous en direct, qui sont avec nous en direct pour parler de cette route du RIM. Alors, la route du RIM, le RIM, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau des indépendants de la musique en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est-à-dire qu'avant que vous ayez de magnifiques playlists concoctées par vos radios, avant que vous ayez voir de magnifiques artistes sur scène, ben, il se passe pas mal de choses en coulisses, pas mal de professionnels travaillent pour vous emmener ces artistes et cette musique jusqu'à vous et au RIM pour regarder un petit peu derrière le rideau ce qui se passe. Je suis ce soir avec, entre autres, on va avoir plein d'invités qui vont venir autour de ce micro et dans cette fabuleuse loge de la sirène, c'est-à-dire qu'on est vraiment derrière le rideau pour le coup. Nous sommes avec Nicolas Antoine, bonjour.
Ouais. Bonjour.
Comment tu vas?
Très bien.
Bon, donc une route du RIM, qu'est-ce que c'est?
Alors on va essayer de résumer ça très très rapidement. Déjà le RIM, donc c'est un réseau de structures tourné vers les musiques actuelles en Nouvelle-Aquitaine. Ça fédère un peu plus de 200 structures. Ça peut être des festivals, des écoles de musique, des salles de concert. On a aussi effectivement une quinzaine de radios comme Zaï Zaï ou d'autres, Radio Pulsar, Vaub FM, etc. Et également tout type de structure qui peut travailler dans le monde de la musique. On a aussi des producteurs de spectacles, des structures qui sont un peu moins visibles du grand public comme des labels qui produisent des disques. Voilà, il y a plein de producteurs de disques en Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, une fois par an, on organise effectivement la route du RIM, qui est un événement qui tourne sur la région. Et donc là, on est accueilli à La Rochelle par la sirène et qui est un de nos adhérents et donc c'est une rencontre professionnelle autour des musiques actuelles en Nouvelle-Aquitaine qui est l'occasion de faire du réseau pour les structures. C'est déjà un des premiers enjeux, quoi, de créer du lien entre des gens qui sont dans une très grande région et qui n'ont pas forcément l'occasion de toujours se côtoyer au quotidien, mais aussi de les amener aussi à échanger ou à réfléchir ensemble sur des sujets un peu clés du moment. Voilà, donc on a tout un programme de rencontres, tables rondes, ateliers, débats, etc. Qui est construit autour un petit peu des enjeux forts du moment du secteur. Voilà, on a des ateliers autour de la place des femmes dans la musique, on a des ateliers autour des questions de handicap, de comment on peut accompagner les personnes en situation de handicap. Et effectivement, on a eu un fil rouge un peu donné par la sirène, qui est un lieu d'accompagnement, et Sébastien qui est là pour en parler mieux que moi, mais qui nous a été donné sur la question de l'accompagnement, parce que c'est quelque chose de très transversal dans le milieu des musiques actuelles, l'accompagnement des artistes, l'accompagnement des structures associatives aussi dans leur évolution et vie. Et c'est un peu tout ça notre cœur de métier au sein du RIM. Voilà.
Très bien, c'était plus que complet. Donc la, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de route du RIM de cette ampleur, en fait, avec autant de participants et d'adhérents.
Tout à fait. Là, effectivement, le fait d'être accueilli, je pense à la sirène, qui est quand même un équipement de taille assez conséquente, qui n'existe pas partout en Nouvelle-Aquitaine, nous permet aussi d'accueillir beaucoup de monde. Donc on a plus de 200 participants sur 3 jours de rencontre. Effectivement, c'est assez conséquent. Et ce qu'on peut noter, c'est que les gens se déplacent vraiment de toute la région. Donc il y a vraiment ce besoin d'échanger, de coopérer avec des personnes qui ne sont pas forcément de juste à côté de chez soi. Mais voilà, aujourd'hui, oui, il y a des gens, effectivement, qui sont du nord-ouest de la région Nouvelle-Aquitaine, mais il y a aussi des gens du Pays Basque, il y a aussi des gens qui viennent de Creuse. Et en fait, les réalités de ces personnes-là qui travaillent dans la musique et des artistes finalement aussi sur ce territoire de région, elles sont finalement assez transversales et elles peuvent souvent se rejoindre, à la limite qu'on soit au bord de l'océan ou pas. Voilà, la question se pose pas forcément.
Est-ce qu'il y a quelques homologues du RIM ailleurs en France, ou on est quand même une exception Nouvelle-Aquitaine?
Pas du tout, on n'est pas du tout une exception. Il y a une structure équivalente au RIM par région. Voilà, elle peut être plus ou moins grosse, compter un nombre d'adhérents plus ou moins important, etc. Bah, voilà, toutes les régions de France sont assez diverses aussi par leur taille et spécificité. Mais non, on a des homologues, la Fracama en région Centre-Val de Loire, Grand Bureau en Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Voilà, c'est des structures qui existent tout à fait, qui sont sur des missions-actions finalement assez proches des nôtres, c'est-à-dire sur l'accompagnement des structures musicales de leur région. Et certaines peuvent aussi avoir des actions un peu plus dirigées vers les artistes aussi.
Très bien, donc tu l'as dit, un petit focus cette fois-ci sur l'accompagnement, même s'il y a eu beaucoup d'autres ateliers. Moi j'ai eu l'occasion de participer à un atelier sur plus spécifiquement sur les labels et l'évolution de la musique enregistrée et de la façon dont il fallait un petit peu faire réseau avec différents partenaires et pas uniquement que les labels. Il y a eu différents sur l'accompagnement des femmes dans la musique, tu en as parlé tout à l'heure. On a parlé aussi de, on a eu ce matin un atelier sur la gouvernance des différentes structures. Et donc l'accompagnement, on va en parler tout de suite. On va écouter un morceau de musique juste avant. On va écouter Cassien et on en parle du coup juste après.
On est venu pour se perdre, on a jeté tout nos dés. On s'est allongé dans l'herbe, sentir le vent sous nos pieds. On a perdu notre verbe, on s'est complètement livré. Vidé, vaincu, notre serment sera de laisser aller. Sera de laisser aller. Sera de laisser aller. On est venu pour se serrer. On a parié qu'on pourrait s'aimer. On ne volera pas cette idée. Mais si tu savais comme on est lessivé. On est venu là pour danser. On est venu danser, danser. On est venu danser, danser. On est venu danser, danser. On est venu là pour danser. On est venu danser, danser. On est venu là pour danser. Du vide, le vivant se guette. La fin arrivée. Si la fête se joue sans cesse, c'est que la mer est montée. On a beau y croire, rêver, les mots battent les idées. Si les fusées font la fête, c'est qu'on aura tous échoué. C'est qu'on aura tous échoué. C'est qu'on aura tous échoué.
Cassien, donc, à l'instant, venu danser, qui est également Cassien avec nous dans cette magnifique loge, je le disais, de la Sirène. Nous sommes également en compagnie de Sébastien Chevrier. Tu es secrétaire général de la Sirène. Donc, on disait, sur cette route du Rhum, il y a un gros focus sur l'accompagnement. Ça veut dire qu'il suffit pas juste de faire de la bonne musique pour arriver aux oreilles des gens.
Je ne crois pas, en tout cas. Mais tout part de la musique, cela étant. Et de l'artistique, comme bien souvent dans nos métiers, et c'est le cas aussi pour ce qui est de l'accompagnement, en tout cas ici à La Sirène. L'accompagnement qui à La Sirène prend des formes diverses et variées, mais qui est très transversal dans la boutique sur les trois niveaux. Ces trois plateaux de 1000 m2, La Sirène, pour ceux qui ne connaissent pas. On a la chance d'avoir des studios de répétition au niveau rez-de-port, donc au niveau le plus bas du bâtiment, qui est la première porte d'entrée, le premier endroit où on commence à rencontrer un peu les musiciens et les musiciennes, et qu'on commence à parler un peu musique et artistique. Et pour nous, l'accompagnement doit forcément passer par une complicité artistique et une envie de défendre un projet un peu en commun, voilà. Et ensuite, on va se positionner là où on va identifier des besoins et des attentes. À La Sirène, il y a des ressources, des expertises, une grande boîte à outils finalement qu'on va ouvrir et qu'on va mettre à disposition des artistes que l'on va souhaiter accompagner ici. Donc ça va aller de la mise en réseau dans le cadre de la recherche de partenaires, de la mise à disposition bien évidemment d'espace pour répéter, pour travailler, de conseils qu'on va leur prodiguer, de la mise à disposition d'espace pour travailler le live plus spécifiquement sur scène. Ça va aussi passer par ponctuellement de la prise en charge de frais d'impression d'affiches par exemple, participation à des frais de pressage de disques, de vinyles, enfin voilà, ça peut prendre des formes vraiment très diverses jusqu'à la programmation en première partie d'un artiste que l'on va inviter dans le cadre de notre programmation trimestrielle. Voilà, donc cette mise en avant et cette rencontre avec les publics que l'on va aussi essayer de proposer à différents moments. Ce qui est sûr, c'est qu'à La Sirène, on aime bien les histoires un peu longues, voilà, donc souvent l'accompagnement s'inscrit dans la durée. Un accompagnement un peu durable, on aime bien la notion de fidélité, de compagnonnage également, donc on va essayer de se revoir un peu régulièrement et de provoquer des occasions de pouvoir nourrir cet accompagnement justement et cette histoire et cette aventure un peu commune que l'on va essayer de mener à bien ensemble.
Alors tu le disais, on a bien compris le cheminement avec la rencontre lors des premières répètes du studio. Alors comment ça se passe du coup sur le long terme? Alors j'imagine il y a plein de musiciens et plein de projets qui avortent parce que les musiciens sont arrivés au bout de quelque chose avant de reconstruire autre chose, mais il y en a certains qui continuent un long chemin, qui continuent une longue carrière. Et comment est-ce que l'accompagnement se transforme comme ça au fil du temps?
On a des exemples un peu concrets. Moi, j'ai souvenir d'un Malik Djoudi qui était récemment encore dans les murs, qui, je crois, a fait un long bout de chemin depuis sa première programmation ici à La Sirène en première partie d'un artiste qui n'est plus, qui s'appelle Christophe. Et ça a été une des premières occasions pour nous comme pour lui d'initier une petite collaboration. Voilà, on l'a invité ici à La Sirène pour ouvrir ce concert un peu fabuleux de l'artiste Christophe, première rencontre. Ensuite, il y a eu des temps d'échange, des temps de rencontres qui ont donné lieu à l'identification de besoins auxquels nous on pouvait ici répondre. Au-delà de ça, on l'a redirigé vers d'autres opérateurs et d'autres acteurs, soit du territoire ici Rochelais, soit des acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine. Malik Djoudi, il a passé énormément de temps également à Poitiers et avec le Confort Moderne. Bref, il y a eu une logique aussi de complémentarité entre nos structures qui s'est mise un peu en place. Ce qui est chouette, c'est de le voir revenir après avoir sorti plusieurs albums ici en résidence à La Sirène il y a peu, résidence financée intégralement par son producteur de spectacle actuel W Spectacle. Donc on l'a vu s'épanouir un peu au fil du temps. Nous, on a toujours su répondre un peu à ses besoins, à ses attentes. Il est venu régulièrement, je pense, à la fois parce qu'il y a aussi un climat de confiance, je pense, qui s'est installé un peu entre nous, et donc chercher aussi peut-être des réponses à des moments où il en avait un peu besoin auprès de personnes justement qui étaient là un peu depuis le début. Et donc il est revenu régulièrement, voilà, passer dans les murs, soit pour des sessions de travail, soit simplement pour des temps d'échange un peu et de dialogue comme ça, de manière informelle. Donc C'est en ce sens aussi où je crois que l'accompagnement prend vraiment des formes très différentes et elle se raconte aussi de manière très singulière pour chacun. Et on est content de voir parfois, en tout cas, que les projets s'épanouissent et fédèrent assez largement, en tout cas vis-à-vis du public, quoi.
Merci beaucoup.
Mais c'est pas une finalité en soi. C'est-à-dire le succès ou en tout cas le fait de réunir largement, c'est pas du tout, je crois, en tout cas, ce qui nous anime au tout début. Quand je dis nous, c'est l'artiste et les équipes de La Sirène. Sincèrement, c'est l'artistique et la singularité du propos, voilà, qui nous anime au départ. Et puis ensuite, l'histoire, on l'écrit et on voit comment elle se raconte.
Émilie, tu voulais nous poser une question?
Ah oui, parce que je voulais parler de coopération territoriale. C'était juste un des sujets, justement, de partage à l'occasion de cette journée professionnelle. On a évoqué le lien entre La Sirène à La Rochelle, le confort moderne à Poitiers. Comment se passe cette coopération entre lieux labellisés? Est-ce qu'on se passe des coups de fil? Comment on se dit, on est ensemble, toi tu peux apporter ça, moi je peux arriver juste derrière dans le montage du projet et apporter la pièce d'après. Comment on fait? Et puis ensuite on fera le lien forcément assez évident entre La Rochelle et Poitiers avec Cassien.
Ouais, on va ajouter même d'autres acteurs à cette histoire. Je laisserai Jérémy Cassien parler de son parcours, de son expérience, peut-être il en parlera aussi bien que moi, voire mieux. En tout cas avec un autre regard. Nous c'est assez naturel en fait que de se dire entre nous, essayons de trouver les bonnes complémentarités en fonction à la fois de nos singularités, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments, on a des projets qui peuvent être un peu dissonants entre les uns et les autres. Donc positionnons-nous là où il nous semble pertinent d'être. Sur le territoire Rochelet, pour ne parler que de lui, c'est vraiment ce dialogue qui est initié depuis de nombreuses années entre le chantier des Francopholies, un dispositif qui a un lieu de travail dédié plutôt au live, qui fait un travail à un endroit, voilà, nous on se positionne La Sirène à un autre endroit et on essaye réellement de trouver, lorsqu'on a des envies communes sur des projets communs, de travailler la meilleure des synergies entre nous. On peut y ajouter Crystal Prod, voilà, qui a une autre casquette mais qui vient aussi illustrer ce propos, et avec le confort moderne pour ne parler que d'eux, mais on pourrait ajouter nos camarades de Cognac, Westrock et d'autres. On essaye justement d'initier ce dialogue et ces échanges entre nous, dans l'intérêt du projet toujours artistique et derrière de l'humain ou des humains qui y sont. Je trouve que on a, nous, cette mission intrinsèque au projet de La Sirène de service public et de l'intérêt général. Donc c'est comme ça qu'on essaye de l'incarner. Il n'y a pas du tout de concurrence, il n'y aura pas du tout de revendication non plus demain, ou en tout cas pas mal placé sur nous étions là au début et les premiers. Je crois que c'est surtout pas l'idée, c'est faire en sorte que les projets qui doivent s'épanouir et se raconter puissent le faire de la meilleure des manières.
Ça, c'est une des évolutions, j'allais dire, positive et favorable, cette question de non-concurrence qui n'était peut-être pas une évidence dans le secteur des musiques actuelles ou du spectacle vivant en général il y a même une quinzaine d'années, et qui petit à petit effectivement ces synergies se déploient, et c'est au profit à la fois des spectateurs, des artistes et des équipes qui peuvent coopérer. Jérémy Denimal alias Cassien, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va faire le pont justement avec Poitiers, puisque toi tu viens de Poitiers. Ce soir, tu es à La Sirène. Donc, comment s'est fait ce chemin-là? Comment le confort moderne t'a accompagné à un moment? Comment La Sirène t'a accompagné? Et comment ce soir, en fait, c'est toi qui clôture cette première journée de la route du Rime?
Écoute, je vais raconter les choses de manière un peu chronologique. J'habite à Poitiers, donc je suis de Poitiers. Naturellement, la structure l'institution, j'ai envie de dire, qui est le plus proche de moi, a été naturellement celle vers laquelle je me suis tourné. Et puis après, il y a eu aussi un événement, pour être très factuel, il y a eu un événement, puisque j'ai fait les sélections régionales des Inouïs du Printemps de Bourges. Donc, le confort moderne dans ce cadre-là a commencé à m'accompagner dans ce cadre-là. Et puis, la sirène a suivi aussi à cet endroit-là dans un premier temps. Et puis après, pour raconter ce qui se passe un petit peu, mais comme disait Sébastien, ça se fait un peu en allant, quoi. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins qu'on peut avoir, des fois on a des problématiques, on a besoin d'en parler. Après, il y a des besoins juste matériels, de mise à dispo, de voilà, pouvoir répéter dans des bonnes conditions, faire avancer le live à tel ou tel endroit. Donc ça, le confort moderne, c'est un peu pas au quotidien, mais c'est voilà, comme j'habite à Poitiers, donc on les sollicite assez souvent. La sirène, on a fait une résidence, il y a eu un temps de rencontre, et puis on a fait une sorte de diagnostic, on a parlé ensemble, etc. Là, je pense que c'est à leur initiative, je n'espère pas me tromper, qu'on vient jouer ce soir ici. Je suis aussi accompagné par le chantier des Francofolies, il en parlait tout à l'heure Sébastien, donc... voilà, et je pense aussi que c'est à l'initiative souvent de l'artiste et de ses besoins et de ce qu'il a envie d'aller chercher, trouver. Il demande et puis on lui répond. Et puis la parole circule, quoi. Ou alors la patate chaude circule.
En tout cas, on sent effectivement qu'au sein des équipes de ces lieux-là, il y a un vrai service qui s'est déployé à l'attention des artistes, avec vraiment des responsables et des chargés de développement. Ça va aussi avec des salles de diffusion qui ont des espaces de plateau disponibles pour des résidences, mais aussi souvent adossés à ces lieux de diffusion des ateliers, des studios de répétition, donc avec des équipes qui accompagnent ces artistes-là. Toi, aujourd'hui, le projet Cassien, où est-ce qu'il en est dans son développement, justement, et quels sont les besoins que tu identifies aujourd'hui?
Aujourd'hui, en l'état, on a eu suffisamment de temps pour arriver aujourd'hui à avoir un répertoire, un set de 40-45 minutes à peu près, et qui s'adapte. Là, tout à l'heure, on va jouer 30 minutes, par exemple, donc on a adapté. Mais donc aujourd'hui, le set live, même s'il est toujours en mouvement, parce que des fois, on a envie de réarranger des choses, on a envie de, je sais pas, prendre la parole différemment. Enfin voilà, c'est un peu tout le temps mouvant, mais il est plutôt en place. Et donc après, comme le projet est quand même assez peu développé, enfin il est assez nouveau, Cassien, le premier concert qu'on faisait sous cette forme-là, et c'était même pas cette forme-là réellement, le setup était, enfin on jouait pas comme ce qu'on va jouer ce soir exactement, c'était en janvier dernier pour les Inouïs du Printemps de Bourges, donc le projet est vraiment tout frais, et donc on n'est pas encore structuré, on n'a pas encore vraiment de partenaire. Donc c'est là où on a envie d'aller, on n'a pas de tourneur. Alors Crystal Production nous accompagne, mais n'a pas une activité de booking vraiment. Nous aide justement à monter le spectacle, à réfléchir sur le spectacle, faire des résidences, enfin nous aide à ce niveau-là, mais ils n'ont pas une activité de booking, donc c'est quand même vraiment ce qui manque.
Et ouais. Ça, c'est un peu le nerf quand même.
Ben ouais.
On peut avoir la plus belle proposition artistique, à un moment donné, il faut pouvoir la partager avec
le
public.
Ben ouais, c'est ça.
Eh bien, merci beaucoup. On va marquer une pause avec The Big ID. Tu connais peut-être.
Ouais. Voilà. De La Rochelle.
Mais oui, ça, exactement. Ouais, tout à fait. Exact. De La Rochelle. Et on va écouter justement un extrait live sur cette même scène où nous sommes actuellement à la sirène. The Big ID donc a été accompagné. Était un groupe qui a été accompagné par la sirène au temps long justement parce que ils sont même pas. Ils ont pendant le confinement ils sont partis sur un voilier enregistrer leur album. Voilà. Donc ils sont revenus au port de La Rochelle et du port de La Rochelle à la scène de la sirène il y a à peine deux arrêts de bus et donc voici The Big ID avec The Margarina Hotel Live.
Radio.
Zaï Zaï part en live, c'est des concerts, des interviews, mais encore plus Zaï Zaï. Et un Zaï Zaï part en live un petit peu particulier ce soir, puisque nous sommes en direct depuis La Sirène sur Zaï Zaï et sur bon nombre de radios partenaires et amis de Nouvelle-Aquitaine. Ce sera un petit peu long de toutes les citer. En tout cas, on est ravis d'être là pour parler coulisses un petit peu de ce qui se passe derrière le rideau avant que les artistes arrivent d'une manière ou d'une autre jusqu'à vos oreilles, et notamment de l'accompagnement de ceci, l'accompagnement des artistes émergents de la salle de répète à la scène. Il en a été beaucoup question, Nicolas, de cet accompagnement aujourd'hui à La Sirène.
Complètement, effectivement, ça a été un peu le sujet central. Bah, on en a parlé avec Sébastien juste avant ici. Et c'est vrai que nous, parmi tous les thèmes possibles de l'accompagnement des artistes et musiciens, il y en a un qu'on a mis récemment en avant au sein un petit peu des discussions au sein de notre réseau, qui est celui de l'accompagnement aussi des personnes en situation de handicap. Voilà, parce que elles peuvent avoir des difficultés à avoir une ne serait-ce qu'une première pratique musicale ou une pratique musicale, on va dire, pérenne, voilà, qui s'inscrit dans la durée, voire même pour certains aller jusqu'à une pratique qui va vers de la professionnalisation ou autre. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est parfois peu pris en compte parce qu'il peut demander de prendre du temps, et qui est un petit peu toujours en dessous de la pile, et nous on trouve que c'est important de le mettre un petit peu au centre des discussions. C'est aussi un enjeu pour un réseau comme le nôtre qui fait d'un 200 structures de prendre des sujets comme ceux-là et puis de les creuser un peu. Et pour ça, on a demandé à une personne ressource sur le sujet qui fait beaucoup de choses, qui s'appelle François Xavier, de venir témoigner et partager son expérience sur une des rencontres de la route du RIM cet après-midi. Voilà.
Ok, bien bonjour.
Salut. Merci d'être avec nous.
Merci.
Et Nico, t'as très bien présenté et passé le micro. Moi, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que, juste qu'on te connaisse, pour te connaître un petit peu mieux, savoir quel a été l'élément déclencheur ou quel a été le chemin qui fait que tu te retrouves ici ce soir.
Alors, le chemin, il a commencé il y a une dizaine d'années. Donc, je suis saxophoniste. J'ai fait toutes les études comme un vrai rat de conservatoire pour le coup. J'étais jusqu'à master en saxophone, direction d'orchestre, tout ça. Après, je suis venu à Poitiers pour faire mes études pour devenir enseignant. Suite à ça, je suis retourné en Normandie, là d'où je viens, et j'ai fait une rencontre avec un monsieur qui s'appelle Laurent Le Bouteiller et qui avait créé une classe particulière au conservatoire de Caen à l'époque. À cette époque bénie, j'avais du temps, donc j'ai passé beaucoup de temps avec lui pendant un an et demi. En fait, il m'a formé à plein de choses. En fait, c'était suite à cette rencontre, moi j'avais rien qui me prédestinait à travailler dans le milieu du handicap. C'est juste que on s'est rencontrés, il donnait un cours, il y avait 2 heures de cours, la deuxième heure il m'a dit tiens, tu prends ma place, t'essayes, et il y a eu comme un déclic, et voilà. Et depuis très honnêtement, je m'éclate dans ces cours là c'est ce que je dis souvent quand je forme des élèves ou quand je parle là-dessus, c'est que le jour où ça ne m'amuse plus, je ferai plus, tout simplement. Mais vraiment, je m'éclate. Donc au début, j'ai commencé avec une petite auto-entreprise, puis après je suis revenu à Poitiers, et là on a créé avec Eric Valdener, l'ancien directeur du conservatoire de Grand Poitiers, la classe musique et handicap. J'en avais créé une autre aussi à l'école de musique de Vienne et Moulières qui continue encore. Et voilà, et donc là ça fait bien 8 ans que cette classe existe, et moi j'ai un poste dédié à ça réellement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez rare sur le territoire, d'avoir un mi-temps avec un professeur qui est entièrement dédié au handicap, quel que soit le handicap, visible, invisible, quel que soit l'âge. Donc on fait vraiment des cours de musique, c'est vrai, c'est pas de l'animation, c'est-à-dire que la particularité, moi je prends juste la personne comme elle vient et puis on travaille ensemble. En fait, c'est une espèce de co-construction avec chacun. Donc c'est plus souvent des groupes qui viennent de structures parce que simplement ça me permet de travailler avec plus de monde plutôt que plein de cours individuels, puisque voilà, je n'ai que 10 heures et donc voilà, il faut essayer de toucher un maximum de public sur ce temps-là. Mais ça me permet de travailler avec les éducs, avec les chauffeurs, avec plein de partenaires et tous les élèves. Avec chacun, en fait, on rentre dans la temporalité de chaque élève. C'est ça qui est hyper important. Et puis on est dans l'écoute et on est vraiment dans la construction. Donc il y a des élèves où au final la musique ça va être un outil de développement personnel. Il y en a d'autres où ça va être une finalité. Il y en a avec qui on peut aller très très loin. Il y en a qui vont quitter ma classe pour intégrer le conservatoire comme n'importe quel élève. Au final la classe va servir de sas pour s'ouvrir pour qu'après l'élève puisse aller directement avec d'autres professeurs. Donc voilà, il y a différents rôles que je joue là-dedans. Et puis, ces derniers temps, il y a quelque chose d'assez important qui est arrivé dans ma vie, c'est qu'en fait, de cette expérience de terrain est née une idée, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de parents ou d'éducateurs spécialisés qui me posaient la question si je connaissais d'autres acteurs sur le territoire qui pouvaient enseigner les arts. Et je sais qu'il y a du monde, mais souvent les enseignants, on peut être dans le faire, mais pas forcément dans la communication. Et donc il y a des gens qui font des choses, mais on ne sait pas qui, pas où, et c'est difficile de se renseigner pour savoir et trouver, ou sinon souvent ces gens ont déjà des cours qui sont pleins. Et donc l'idée c'était de construire un pôle, donc c'est le pôle du Tison. Ça se trouve pauledutison.com, enfin bref, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Et donc, on va commencer les cours dès l'année prochaine. Alors, la première année sera hors les murs parce qu'on a des petits retards de travaux. Et à partir de septembre 2026, ce sera vraiment à Tison, donc à Poitiers, où là, il y aura ce pôle qui sera construit. Ce pôle, il va s'articuler autour de trois domaines. Le premier, donc, il est artistique. Et donc, dès l'année prochaine, on commence des cours. Il y aura des cours de danse contemporaine, danse africaine, différents arts plastiques, de la marqueterie, de la musique, du chant, du slam, de la création de contes, enfin plein de choses en fait. Et donc ça va être réparti un petit peu sur Grand Poitiers en fonction des salles partenaires qu'on va avoir pour cette première année. À partir de la deuxième année, donc on aura vraiment le bâti. Et là, moi j'avais d'autres demandes. C'est de plus en plus, j'ai des personnes qui viennent du médico-social qui s'intéressent à mes cours parce qu'en fait ils voient que les élèves qui viennent dans mes cours progressent. Et c'est pas uniquement lié à mes cours, c'est par rapport à un ensemble d'actions qui sont menées auprès de ces élèves, mais en effet ils progressent et au final on arrive juste sur ce qui est normal pour tout le monde qui vient dans des cours artistiques, c'est qu'en fait on grandit, on progresse, ça nous permet d'apprendre à communiquer avec d'autres, de développer une dextérité, de développer des connexions, quelles qu'elles soient, physiques, cognitives, etc. Et en fait, moi, le message le plus important c'est que donner cours à des personnes en situation de handicap, c'est pas plus compliqué que donner cours à n'importe qui. Et donc là-dessus, on a 5 cabinets en médico-social qui vont. Et le but, ça va être de créer une porosité en fait entre le médico-social et l'artistique. Et là-dessus, il y a encore un autre endroit où on va accueillir des scientifiques aussi, et pour créer en fait cette triple porosité. L'idée, c'est qu'en fait, on puisse travailler avec le médico-social et l'artistique, mais chacun restant à sa place, mais chacun en s'offrant des billes pour casser les murs, trouver d'autres angles de manière de travailler pour pouvoir aller plus loin. Et aussi, il m'arrive de donner des conférences, des choses comme ça, où je rencontre des scientifiques qui m'expliquent que pour étudier une situation qui associe le handicap et l'art, souvent ils doivent créer la situation. Là, l'idée, c'est d'avoir des situations qui soient pérennes, qui durent dans le temps, on peut revenir, et avec en plus ce regard du médico-social qui aura travaillé avec tel ou tel groupe.
Alors, moi j'avais une question assez évidente, c'est que quand on travaille avec ces publics-là, quand on intervient dans des structures, tous les artistes, tous les intervenants ne se sentent pas armés. Donc, du coup, comment est-ce que ce que tu disais tout à l'heure, c'était il y a des choses qui se font mais on ne les voit pas. Donc, est-ce que ce projet-là réunit des intervenants qui déjà avaient une pratique d'ouverture à ce public-là et sauf qu'ils n'en faisaient pas communication, ou est-ce que tu es allé aussi chercher des gens que tu as accompagnés aussi à ce qu'ils puissent proposer des cours, comme on pourrait appeler peut-être du sport adapté, de l'art adapté?
Eh bien, en fait, il y a un peu des deux, concrètement. Alors celui qui a le plus d'expérience pour le moment c'est moi, mais parce que je fais vraiment, enfin en fait moi là c'est la première année où j'ai arrêté les cours de saxophone parce que pendant 20 ans j'étais prof de sax en conservatoire et où je me suis vraiment consacré qu'à ça, mais dedans il y en a la plupart des profs qui sont là, alors déjà ils sont tous vraiment experts dans leur domaine, ça c'est un truc qui est hyper important, c'est qu'au final souvent en fait le problème c'est qu'on associe les pratiques artistiques aux thérapeutiques et au final
l'art thérapie qui effectivement voilà. est autre chose,
c'est complètement autre chose, c'est pas les mêmes objectifs, on n'arrive pas sur les mêmes choses, et au final il y a des art thérapeutes qui vont être extrêmement compétents et qui ont vraiment approfondi l'art avec lequel ils vont travailler, il y en a qui vont vraiment plus partir de la thérapie et utiliser l'art comme un outil mais sur lequel ils n'ont pas forcément approfondi autant qu'un prof qui s'est dédié à ça pendant des années uniquement à ça et pas à la thérapie pour le coup. Et donc avant tout c'est vraiment des experts dans leur domaine qui ont tous des années de pratique, que ce soit soit en conservatoire soit dans des associations et donc en fonction des profils, il y en a qui ont vraiment une expérience forte, il y en a qui ont des expériences moins fortes, il y en a beaucoup qui sont venus voir mes cours aussi, et moi en fait je vais avoir un espèce de rôle de référent pendant toute cette première année où au final quand il y en a qui peuvent se retrouver un petit peu face à des problématiques qu'ils n'arrivent pas à résoudre, en fait c'est le fait de travailler avec. Mais au final, ça va. Le truc, c'est que le fait de travailler avec les structures, c'est assez simple, dans le sens où on arrive avec un groupe qui est déjà constitué et qui est encadré. Donc, en fait, c'est vraiment facile. Je revendique très fort. C'est qu'en final, on a juste à faire notre boulot et s'il y a un souci lié au handicap, et ben au final, il y a des professionnels qui sont là et qui savent répondre à cette problématique.
Et alors, c'est une ambition incroyable que de porter la construction d'un lieu, que de constituer un pôle physique. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des partenaires autour de ce projet-là, qui sont aussi peut-être des partenaires publics. Comment on arrive à mobiliser des partenaires publics pour accompagner un tel projet ?
Alors,
localement.
Alors, il y a différentes choses. Le bâti, lui, il est privé. Donc ça, c'est le bâti est privé et ce qui fait qu'après tous les travaux, tout ça, ça c'est privé. Après, et le système est hybride. C'est-à-dire qu'en fait, tout ne repose pas sur des financements publics. Ça, c'est quelque chose qui est important. On travaille vraiment là-dessus et ce qui fait qu'au final, là, nous, pour aller voir les banques et pour pouvoir créer le projet, en fait, on est simplement sur du locatif. Donc, c'est-à-dire qu'au final, les cabinets, eux, sont loués. Et comme n'importe quel cabinet. Et en bas, en fait, les cours, c'est l'asso qui loue. Donc là-dessus, au niveau de la banque, ça se gère comme ça. Après, pour tout ce qui est les partenaires qu'on va avoir, ça va être des partenaires pour développer tout ce qui touche autour de l'asso. Et le matériel, des tables adaptées, des chaises adaptées, des instruments, enfin bref. Et là, en fait, on a beaucoup de partenaires. On a... on a la ville de Grand Poitiers qui nous soutient, on a le département, on a la région, on a tout ce qui est l'économie sociale et solidaire qui a joué un rôle énorme là-dessus, on a été incubé. Alors ça c'est le rôle de Cindy Clèche qui est ma partenaire là-dedans, qui s'occupe de toute la partie administrative et sans elle, encore une fois je la remercie, sans elle ce projet n'existe pas. On va dire moi j'ai les idées, je rencontre les gens, mais elle fait tout le travail de l'ombre et elle le fait extrêmement bien. On a aussi maintenant dans cette association un président qui s'appelle François Borda, on a Valérie Maché qui est secrétaire, donc François Borda est éducateur spécialisé, il travaille avec mon conservatoire depuis longtemps, il amène des groupes et la moitié des bonnes idées de cette classe viennent de sa tête. Et voilà. Donc au final, des partenaires, il y en a plein qui se font, par contre ça veut dire beaucoup de temps, beaucoup de rencontres, aller chercher des subs partout, et ça c'est vraiment le rôle de Cindy qui travaille énormément là-dessus. Et après, ce projet est réellement innovant, il n'existe pas. Donc, ça intrigue, ça interpelle, et il y a pas mal de... Et comment dire, on est quand même assez solide quand on va voir les gens. En plus, on a de plus en plus de partenaires, on commence à recevoir des prix aussi de plus en plus, ce qui fait qu'on devient valide, entre guillemets, et donc on commence vraiment à nous suivre, et ça, c'est hyper intéressant. Cette forme hybride qui va apporter peut-être de nouvelles réponses. C'est hyper. Je pense que c'est ce qui pousse les différentes sujet du public ou tout ça, à vouloir nous suivre et à essayer de voir ce que ça va donner.
Alors une question un peu... je ne veux pas que ce soit une question piège, mais pourquoi a-t-il fallu penser un modèle qui était un modèle associatif, donc privé, sachant que les premières interventions se faisaient au conservatoire, et on ne pouvait pas adosser cette activité directement au conservatoire.
Alors, moi, donc, je continue au conservatoire, dans tous les cas, ça ne change pas. Mais c'est juste qu'au final, nous, là, le côté, la diversification des arts fait que...
ça va aller au-delà des compétences premières du conservatoire.
C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi sûrement avoir, pour le théâtre et la danse, clairement, des classes complètes de conservatoire. Mais déjà, en fait, la classe de Caen, je me suis vraiment inspiré de ce qui avait été fait à Caen. Mais j'ai appris récemment que quand Laurent Le Bouteiller a pris sa retraite, alors la classe existe toujours, mais elle n'est plus complètement associée dans le conservatoire comme elle l'était. Donc je ne connais pour le moment pas encore d'autres classes avec un prof totalement attitré dans un conservatoire. Et ça voudrait dire créer la même chose pour avec un prof de danse attitré, avec un prof de théâtre attitré, déjà au moins pour les trois arts qui sont enseignés au conservatoire. Il paraît qu'il y a le cirque qui en fait partie, mais pour le moment, je ne connais pas de conservatoire avec du cirque à l'intérieur. Il y en a sûrement, mais bon, voilà, peut-être que... Voilà. Mais pour le coup, après, en fait, quand on arrive sur toutes les autres pratiques artistiques qui touchent, par exemple, à, je ne sais pas, la peinture, l'art plastique, bref, la création de contes, là, comme je disais, le slam au conservatoire, il y en a qui s'ouvrent un petit peu à ça, mais pas encore tous. Enfin, ça dépend des directions et du schéma que choisit le conservatoire. Donc là, en fait, ça permettait vraiment d'aller vers ça. Il y a autre chose, c'est aussi la plupart des personnes qui viennent travailler dans ce pôle, qu'elles soient du médico-social ou de l'artistique, ont un peu envie de sortir des schémas pyramidaux. Le fait de... j'assistais tout à l'heure à un atelier où on parlait justement sur la collaboration et tout ça et que l'horizontalité totale.
La coopération,
oui,
justement.
La coopération, voilà.
Mais que la coopération n'était pas la collaboration.
Oui, voilà. Et, voilà, et que l'horizontalité totale n'existe pas. Mais que, par contre, l'idée, c'est quand même d'éviter un petit peu ce système trop pyramidal et que chacun puisse apporter sa pierre. Et aussi, l'idée, c'est de pouvoir avoir le droit d'essayer de se tromper. En fait, on rentre dans des schémas qui sont pas forcément, qui rentrent pas forcément en phase avec l'institution, où souvent on a des choses à suivre qui sont très claires et qui sont hyper importantes.
Merci beaucoup. En tout cas, on suivra donc une première année hors les murs, mais très rapidement. On croise les doigts. Les chantiers sont toujours plein de surprises. Donc, on espère qu'une chose, c'est que cette année 2 puisse se faire, en tout cas, dans les murs. On rappelle peut-être le nom du projet et comment on peut le suivre sur les réseaux.
Alors, c'est le Pôle du Tison. Il y a un Insta, il y a un Facebook, il y a un site internet, pôledutison.com. Voilà, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et voilà. Et merci pour votre écoute.
Merci beaucoup. Nous allons faire une nouvelle petite pause musicale avec Rachel Farman, encore une artiste accompagnée, suivie, accueillie dans le cadre d'un dispositif notamment d'accompagnement qui s'appelle le BAM, le Booster d'Ambition Musicale, sur la scène de musique actuelle de la Nef à Angoulême. Rachel Farman avec le morceau « Maybe You'll Come Over ».
Between two worlds, you had no idea where to stand, so you took the road. Maybe you'll come over if the gloom goes down. Maybe you'll come back home if I call you one time. Will you crawl the door soon if the moon shows?
Culturelle, indépendante, étudiante, musicale. Zaï Zaï Radio.
Zaï Zaï part en live, c'est des concerts, des interviews, mais encore plus Zaï Zaï. De retour sur le plateau improvisé dans ces loges de la Sirène à La Rochelle, à la salle de concert, pour parler de cette route du RIM, le réseau des indépendants de la musique en Nouvelle-Aquitaine. On a parlé de plein de choses pendant cette journée. On a parlé d'accompagnement, vous l'avez entendu. Il y a eu différents ateliers qui ont eu lieu, et pour parler un petit peu de ces ateliers et de plein d'autres choses, on est avec Virginie Séguineau du Slowfest. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Tu vas bien?
Ouais, très bien, merci.
Alors cette journée?
Super.
Ouais.
Ouais, j'ai passé une super journée.
Les neurones sont encore en ordre de marche ou ils sont un peu fatigués?
Ça va, ça va.
Ok, donc toi, ce matin, on a parlé gouvernance des structures. Toi, tu étais dans un atelier en non-mixité.
Ouais, ça s'appelle l'étincelle.
Qu'est-ce donc ?
C'est donc un moment où on se retrouve uniquement entre femmes. En général, il y a une thématique. Là, c'était un peu sur les parcours professionnels et notamment quels sont les freins qu'on rencontre. Et en fait, c'est toujours un moment déjà super agréable et convivial. Et c'est aussi un outil d'entraide en fait entre femmes qui travaillent dans la musique. contre en fait la discrimination professionnelle. Donc c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un outil. Et dans la musique, ça compte particulièrement parce que les femmes travaillent souvent dans l'ombre et elles ont beaucoup moins de postes à responsabilité. Et du coup, c'est un process d'auto-émancipation. C'est-à-dire qu'on on se forme et on s'écoute entre femmes pour pouvoir après se déployer dans une communauté mixte.
Et ça, quel que soit son poste, quelles que soient ses missions au sein de la structure où on est, c'est pas uniquement pour les artistes. Il y a d'autres dispositifs qui vont accompagner justement les artistes femmes. Donc là, quel était le profil, est-ce que tu saurais nous dire un peu le profil des... de tes collègues d'atelier?
Complètement. Bah, en fait, c'était très varié. C'est donc des chargées de production, des chargées d'administration, des directrices. Il y avait également une artiste musicienne. Voilà, ce sont vraiment des profils très variés. Et l'idée, c'est que je pense que la plus jeune d'entre nous avait peut-être 19 ans. La plus âgée, une cinquantaine d'années. C'est de partager les expériences de chacune.
Et du coup, toi, dans les musiques actuelles, est-ce que avant ces ateliers-là, et il y a peut-être quelques années, est-ce que tu sens qu'il y a une prise de conscience, un empowerment des femmes, spécifiquement dans les musiques actuelles, qui était quand même un secteur où elles étaient peu visibles, pas non présentes, mais souvent invisibles ou... cantonné à certaines missions d'administration.
Ouais. Alors, je suis pas très bien placée pour répondre à cette question, parce qu'en fait, moi, ça fait juste 2 ans et demi que je travaille dans le milieu des musiques actuelles. Par contre, d'après ce que j'ai compris, je pense que la prise en charge vraiment des VHSS a déjà permis de parler, en fait, des relations hommes-femmes, même si c'était par un biais pas très joyeux. Et du coup, je pense à certaines femmes de prendre conscience déjà de situations qui étaient compliquées et de chercher des outils pour s'émanciper comme les ateliers en non-mixité.
C'est un rendez-vous, alors l'étincelle, c'est un rendez-vous qui est porté par le RIM ou c'est comment est-ce qu'on peut retrouver d'autres ateliers dans le courant de l'année autour de l'étincelle?
Alors moi je connais l'étincelle lors des routes du RIM. Je l'ai expérimenté uniquement lors des routes du RIM. Je crois que ça n'existe que pendant les routes du RIM. Ça a été créé d'abord initié par une adhérente, comme ça, de manière assez informelle. Et puis en fait c'est devenu un rendez-vous récurrent. Et aujourd'hui on était accompagné par la structure La Petite et Anise Vinciguerra,
voilà, qui est sur Toulouse et qui travaille justement particulièrement sur les questions d'égalité. Et qui fait à la fois de l'accompagnement, de la formation. Elle a aussi fait un atelier autour justement des VSS cet après-midi auprès d'un public mixte, là cette fois-ci, mais qui a pu parler de ses expériences et comment en fait en tant que structure, en tant qu'employeur, employeuse, on peut réagir à des situations de signalement qu'on peut avoir dans ce milieu-là. Mais tu n'es pas venu qu'avec cette casquette-là. Et alors c'est un petit jeu de mots, la question de la casquette, parce que tu es arrivé dans cette loge avec une magnifique casquette de coordination du Slow Fest. Est-ce que tu peux, pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas le Slow Fest, le présenter et donner un petit peu l'ADN de cette association?
Avec plaisir. Slow Fest, c'est un collectif qui existe depuis 10 ans, qui a été créé par des musiciens, musiciennes, techniciens, techniciennes. Et l'enjeu, c'était juste de changer les pratiques. C'est-à-dire que c'était déjà des gens qui tournaient, qui faisaient des concerts, et ils avaient juste envie de faire des concerts les moins énergivores possibles. Donc c'est une manière de passer à l'action extrêmement pragmatique. Ils ont juste constaté à l'époque que l'impact carbone des concerts et des spectacles vivants, c'était 80%. Et du coup, ce sont de la diffusion d'artistes en mobilité douce et notamment à vélo. Et après, on a également développé un projet d'autonomie énergétique. Donc, on a des remorques solaires vélo-tractées qui nous permettent de sonoriser nos propositions. Et en fait, avec ces deux contraintes qu'on s'est imposées, c'est-à-dire la mobilité douce et l'autonomie énergétique, on a trouvé une grande liberté et une grande joie, puisqu'au final, on peut se déplacer où on veut, on peut se produire où on veut. Et même notre mobilité devient un événement. La déambulation est devenue vraiment, on en fait des parades, on en fait des spectacles, on fait des carnavals maintenant. Voilà. Et l'idée, c'était aussi justement de sortir de cette éco-anxiété, de montrer qu'il y avait des solutions très simples et surtout joyeuses.
Depuis combien de temps le projet du Slow Fest se déploie? Alors plutôt sur le bassin bordelais, mais comme tu dis, on peut aller de partout. Il y a eu un petit tour de Nouvelle-Aquitaine aussi l'année dernière. Est-ce que quand ce projet-là est arrivé, le réseau des musiques actuelles a trouvé ça un petit peu ovni, ou est-ce que très rapidement, les acteurs des musiques actuelles se sont dit, mais là, ils sont peut-être en train de tester des solutions qu'on investira plus tard, quoi, finalement.
Je pense qu'au début, complètement ovni. Et puis de toute façon, c'était un collectif qui était déjà très auto-nourri, très en expérimentation et en prototypage. Donc en fait, il y a eu pas mal d'années d'expérimentation avec des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Typiquement, au début, on faisait des concerts à 50 km. Donc on partait 50 km à vélo, le concert, le retour 50 km. Bon, ben voilà, toute l'équipe était cramée. ce sont des choses qu'on ne fait plus. Et puis, en fait, à force d'expérimenter, justement, sur les prototypes, on a fait des V1, des V2, des V3. Et puis, quand on est arrivé à des choses assez solides, on a commencé à collaborer avec des festivals, des communes. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver une assise professionnelle. Et ce dont tu parlais en Nouvelle-Aquitaine, c'est la première édition de notre festival Les Furtives. Donc, c'est un festival cyclo-itinérant. Et l'idée, c'était justement d'essaimer nos pratiques en termes de sobriété, en coopération avec les salles de concert, avec toutes les structures d'un territoire qu'on va explorer. Et la deuxième édition a lieu cette année, du 26 août au 7 septembre. On part de Bordeaux pour aller à Marmande et pour revenir à Bordeaux.
Ah oui, là vous redescendez.
C'est ça.
Ne montez pas. Chris, est-ce que tu veux clore presque cette...
Le temps ouais. File comme pas possible. Alors, pendant cette journée du RIM et tous ces ateliers, alors bien sûr, on parle de plein de choses qui ne vont pas et de la façon dont il faut s'organiser, etc. Alors, on sait que la culture, le budget de la culture en France est un peu mis à mal. Alors, dans certaines régions, ça va beaucoup moins bien que d'autres. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé demain. Comment est-ce que toi, tu as ressenti, avec ta place au RIM, est-ce que tu as ressenti une morosité, un espoir? Quelle est la météo aujourd'hui, ce soir?
En fait, en effet, je suis élue au CA du RIM, et justement, c'était le message qu'on avait envie de porter. C'était pas de faire que le constat que c'est compliqué, et plutôt d'insuffler de la force, de la solidarité, insister sur notre robustesse, et vraiment avoir confiance et se dire qu'on a un vrai choix, c'est-à-dire de construire un futur qui soit pas de la survie, mais plus basé sur l'envie.
Super. Je crois qu'on va rester là-dessus. Hein.
Je crois que c'est la plus belle phrase qu'on pouvait avoir pour clôturer cette émission. Merci,
merci beaucoup. Merci à toutes les radios qui ont repris ce programme. Vous étiez en direct sur Zaïzaï depuis la route du RIM, depuis les loges de la Sirène à La Rochelle. On vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à très très vite. Bye bye.
Salut.